arrêtez, si elle est quelque chose de créé dans l'âme, elle est un accident dans la volonté. Si c'est un accident dans la volonté, elle est donc relative à la volonté. Elle est donc moins grande que la volonté. Or, la charité est plus, puisqu'elle est d'ordre divin. Donc, elle ne peut pas être un accident. Donc, elle ne peut pas être une vertu. Oui. Comment on peut essayer de comprendre cette objection? Alors, réponse. Tout accident considéré dans son être est inférieur à une substance. Car la substance est un être qui existe par soi, tandis que l'accident n'existe que dans un autre. Là, vous roulez sur du billard, hein. Vous disiez bien accident et substance, vous voyez comment la métaphysique est là présente, n'est-ce pas ? Tandis que l'accident n'existe que dans un autre. Mais si l'on se place au point de vue de l'espèce de l'accident, il faut dire ceci, l'accident qui est causé par les principes du sujet, est inférieur au sujet, comme un effet est inférieur à sa cause. Tandis que celui qui provient de la participation à une nature supérieure est lui supérieur à son sujet, du fait qu'il porte la ressemblance de la nature supérieure. Ainsi, la lumière est-elle de nature plus élevée que le milieu diaphane qui la reçoit? Le milieu diaphane, l'air qui la reçoit. De cette manière, en tant qu'elle est une certaine participation du Saint-Esprit, la charité est de dignité plus grande que l'âme. Alors là, c'est très intéressant, je vais un petit peu m'arrêter, parce que je crois que c'est intéressant, c'est toute la théologie, vous voyez, des rapports entre la grâce et la nature, mais c'est très important de bien les comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas là aussi de dire des bêtises. Hein. C'est assez difficile à bien comprendre. La nature, la grâce. Alors, parallèlement, vous comprenez bien, la volonté, la charité, vous pouvez compléter, l'intelligence et la foi. Toujours le même problème. Quels sont les rapports entre la grâce et la nature, les rapports entre la charité et la volonté, les rapports entre la foi et l'intelligence? Vous avez là trois analogies, trois choses qui sont très intéressantes à voir. Alors, évidemment, hein, je ne veux pas vous rappeler ici tous les systèmes qui ont été émis du point de vue théologique et toutes les grandes erreurs. Il y a eu des grandes erreurs qui ont consisté pour exalter la grâce, supprimer la nature. Vous reconnaissez tout de suite, hein. Luther. La nature est fondamentalement mauvaise, la grâce est tout. Alors, au nom de l'exaltation de la grâce, je diminue la nature. Et alors, ça se fait du côté de la foi, vous voyez ? C'est ce qu'on appellera le fidéisme. Le fidéisme consiste à dire la foi seule suffit. L'intelligence, non. Alors, un mépris souverain vis-à-vis de l'intelligence. C'est Luther, ça. C'est Luther et comme ça. Et récemment, Karl Barth disait ça ouvertement. C'est la foi qui suffit. Donc, absolument plus d'efforts d'intelligence. Donc, plus de philosophie. La philosophie, c'est très très dangereux. Parce que c'est quand même ce qui perfectionne l'intelligence, normalement. Ce qui permet à l'intelligence d'être plus intelligent. Donc, surtout pas. Il faut laisser la foi toute nue. Vous voyez, il y a toujours une part de vérité dans les erreurs. Hein. Il y a quelque chose de vrai. Il faut bien comprendre. Il y a quelque chose de vrai dans l'exaltation de la grâce et dire que la nature est corrompue. Il y a quelque chose de vrai dans l'exaltation de la foi et dire que l'intelligence est corrompue. Alors, la même chose au point de vue de la volonté. Et dire que la charité seule suffit. Et que la volonté est quelque chose de corrompu. Bon, première position extrême. L'autre position extrême, c'est de dire la grâce. C'est intéressant parce que c'est deux positions. La grâce consiste simplement à perfectionner la nature. Alors, vous avez une position qui est connue dans une certaine école de théologie. Vous avez l'école de Molina et de Suarez. N'est-ce pas ? Il ne faut pas l'oublier. C'est de considérer que la grâce simplement perfectionne la nature. Et donc, l'exaltation de la nature. Et vous voyez pourquoi, en raison des circonstances particulières dans lesquelles la théologie de la compagnie de Jésus s'est développée, on a dit il faut à tout prix sauver la nature, à cause de Luther. Saint Ignace dit textuellement dans sa règle, il faut à tout prix sauver la liberté. C'est très très curieux, c'est très intéressant de voir ça, parce que ça explique pas mal de choses. Alors, pendant 100 ans, il y a eu la lutte entre les jésuites et les dominicains. C'est ça que ça m'intéresse, vous comprenez. C'est des histoires de famille, ça. C'est des histoires de famille, mais qui ont beaucoup de conséquences. Pendant 100 ans, les dominicains ont combattu cette théorie en disant, attention, il fallait voir encore le père Gary ou Lagrange quand il parlait de ce sujet-là. Paraît-il, c'était extraordinaire. Je ne l'ai pas vu, bon, je n'ai pas suivi ses cours, mais j'ai entendu la question. Le père Gary descendait de sa chair pour lutter davantage, pour que sa passion puisse être davantage développée. Alors, il disait à ce moment-là, justement, que c'est vrai, il y a eu toute la grande querelle d'Eoxilis entre jésuites et dominicains, les dominicains disant « Non, nous ne pouvons pas dire que la grâce est uniquement un perfectionnement de la nature, parce que la grâce est source de vie divine. Si la grâce est une source de vie divine, la grâce est comme une nouvelle nature. La grâce est bien reçue dans la nature, mais elle est une nouvelle nature. Et donc elle a son rythme propre de vie, qui nous met au rythme de la Très Sainte Trinité. C'est propre de la grâce, puisque la Très Sainte Trinité habite en nous, par la grâce. Et donc on est au rythme de la Très Sainte Trinité. Et donc je ne peux pas considérer la grâce uniquement comme perfectionnement de la nature. Vous voyez, l'humanisme chrétien, c'est le succès d'année de ce fait de la grâce qui perfectionne la nature. Alors on regardera uniquement le perfectionnement de la nature humaine par la grâce. La grâce arrive à perfectionner pleinement la nature. Donc, vous avez les deux, vous pouvez dire la même chose au point de vue de la foi. C'est que la foi est uniquement au service de l'intelligence pour permettre à l'intelligence de se développer parfaitement. Et deux extrêmes. Je crois qu'il faut comprendre que la grande doctrine de l'Église, qui se rapporte directement à l'enseignement de Jésus à Nicodème, parce que je crois que c'est l'enseignement de Jésus à Nicodème qui est le lieu le plus précis pour comprendre les rapports de la grâce et de la nature. Notre Seigneur donne une leçon de théologie à un docteur en Israël. C'est pas mal. Et Nicodème n'était sûrement pas le premier docteur, n'importe quel docteur en Israël. Il était sûrement le premier, le plus intelligent. La preuve, c'est qu'il est allé voir Jésus. Donc, il a dit donc cette espèce d'intelligence profonde d'aller trouver Jésus pour lui demander. Et entre Jésus et Nicodème, c'est une leçon de théologie sur la grâce. Nicodème considérait qu'il était fils de Dieu parce qu'il était bien né. Nicodème considérait qu'il était fils de Dieu parce qu'il était de la race d'Abraham. Et Jésus répond, personne, s'il ne naît d'en haut, n'entre dans le royaume de Dieu. Donc Jésus montre qu'il y a nécessairement une seconde naissance. Et c'est une seconde naissance que Jésus dit. Si c'est une seconde naissance, ça aboutit donc à une nouvelle nature. La naissance aboutit à une nature. Et donc il faut comprendre que le mystère de la nouvelle naissance, naître d'en haut, de l'esprit et de l'eau, cette nouvelle naissance implique une nouvelle nature qui est source de vie et qui a son rythme propre de vie. Ce qui est vrai de la grâce est vrai de la foi, est vrai de la charité. Mais cependant, il faut bien reconnaître que c'est une seconde naissance. Si c'est une seconde naissance, elle présuppose la première. Ne peut être baptisée que celui qui est déjà né. Donc ça présuppose la première naissance. Et la première naissance, c'est la naissance à notre nature humaine. Et donc la grâce a deux aspects. L'aspect formel de la grâce, c'est-à-dire ce qui montre le caractère le plus spécifique de la grâce, c'est d'être une nouvelle nature, source de vie nouvelle, source de vie divine, source de vie divine qui nous met dans la Très Sainte Trinité. Mais en même temps, la grâce est un habitus, vous voyez, créé, qui est dans l'âme comme un accident, un habitus antitatif. Et les meilleurs théologiens ont dit, à la suite de saint Thomas, que regarder la grâce uniquement comme un habitus entitatif, donc comme un accident, c'est matériel. Ça matérialise le mystère de la grâce. Parce que ce qui a de caractéristique à la grâce, c'est d'être une participation à la nature de Dieu. Et donc, si c'est une participation à la nature de Dieu, ça doit nous faire comprendre que la grâce est une nouvelle nature et non pas seulement un habitus. Qui dit habitus dit accident, dit qualité, qui se réfère à la nature. Qui dit nature dit source d'une nouvelle vie, qui est une vie divine qui nous met en union avec la très sainte Trinité. Donc vous voyez, il faut bien saisir ces deux aspects. C'est la même chose pour la charité. La charité est de fait une participation à l'Esprit Saint. Si la charité est une participation à l'Esprit Saint, si la charité est une participation à l'Esprit Saint, l'aspect formel de la charité, c'est de vivre au rythme de l'Esprit Saint. Donc c'est de respirer la respiration même de l'Esprit Saint. C'est l'aspiration divine. C'est de vivre avec l'Esprit Saint, participation formelle. Mais la charité est aussi quelque chose de créé dans la volonté, habitus, vertu. Alors vous voyez les deux aspects. La charité, en tant qu'elle est reçue dans la volonté, en tant qu'elle est reçue dans la volonté, est un habitus. Ça, c'est l'aspect entitatif. Et cet aspect entitatif est matériel. Et la charité, dans ce qu'elle a de plus formel, nous ouvre au souffle de l'Esprit Saint et nous fait vivre sous l'action de l'Esprit Saint. Et donc nous donne un nouvel amour. Nous donne une nouvelle relation avec Dieu. Une relation d'amour avec Dieu. Une possibilité d'aimer Dieu d'un amour nouveau. Parce que c'est justement une participation à l'Esprit Saint. Mais il y a toujours les deux aspects. Ce qui montre bien, vous voyez, les deux analogies. L'analogie de l'habitus, l'analogie de l'amour. Les deux analogies. Pour nous faire comprendre comment, de fait, le mystère nous échappant, nous pouvons le regarder de deux manières différentes. Et quand nous le regardons de deux manières différentes par rapport à la volonté, nous avons donc les deux manières de le voir. Nous considérons que la charité ennoblit notre volonté. Mais c'est le rôle second de la charité. Le rôle premier de la charité, c'est de nous faire vivre sous le souffle de l'Esprit Saint. Participation formelle à l'Esprit Saint. De même la grâce. La grâce ennoblit notre nature et perfectionne notre nature. C'est le rôle second de la grâce. Le rôle premier de la grâce, c'est de nous faire vivre le mystère d'enfant de Dieu. C'est d'être déiforme. C'est-à-dire participation formelle à la nature de Dieu. Alors vous comprenez que ceci, au point de vue théologique, a des répercussions immédiates au point de vue pratique. Au point de vue pratique, devons-nous en premier lieu considérer que la grâce fait de nous des hommes parfaits, ou devons-nous en premier lieu regarder que la grâce fait de nous des enfants de Dieu ? Devons-nous en premier lieu regarder que la charité nous fait vivre selon le rythme de l'Esprit Saint, ou devons-nous en premier lieu regarder que la charité perfectionne notre volonté ? Vous avez là deux spiritualités différentes. Inutile de vous dire laquelle je chauffe, non ? Mais avant, il y a deux spiritualités différentes. Et la spiritualité fonde la pastorale, il y aura deux pastorales différentes. Il y aura la pastorale d'évangélisation au niveau de la charité et la pastorale au niveau de la volonté. Vous voyez, c'est très important ça, parce qu'il y a là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, hein. Faut voir clairement les choses. Du fait même que l'Église a demandé le silence dans la lutte des auxilies entre les dominicains et les jésuites, nécessairement, l'efficacité est passée avant. Et alors, la théorie de la grâce première qui est passée, c'est celle de Suarez. Or, la théorie de la grâce de Suarez, et nous en voyons les conséquences maintenant. C'est pour ça que ça remonte très loin, ce que nous vivons actuellement. Il ne faut pas dire que c'est Vatican II. C'est tout à fait faux. C'est beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Ça relève, pour moi, de la lutte du déoxylis entre les théologiens qui, à ce moment-là, voulaient essayer de comprendre quels sont les rapports entre la grâce et la nature. Quels sont les rapports entre la grâce et la nature? Parce que ça, c'est très important pour l'évangélisation. Et pour la vie chrétienne tout court, parce que toute spiritualité repose sur une théologie. Alors, il faut comprendre quels sont les rapports entre les deux. Si vous considérez que la grâce perfectionne en premier lieu la nature, par le fait même, la grâce n'apporte pas une nouvelle nature. Si vous considérez que la charité en premier lieu perfectionne la volonté, la charité n'a pas d'objet propre. Donc il n'y a plus de contemplation divine mystique. Il n'y a plus qu'une volonté chrétienne bien orientée et une volonté capable de mérite. C'est ce qu'on a appelé le surnaturel quod modum. C'est-à-dire le surnaturel qui ne nous donne pas un objet nouveau à considérer, mais qui nous donne uniquement une manière nouvelle d'opérer. Et c'est la même chose pour la foi. Oui. Donc là, on touche quelque chose de très important. C'est pour ça que cette manière dont saint Thomas répond est très importante à bien saisir. C'est que la charité... Et ça fait très bien comprendre, vous savez, la position des orthodoxes. Si les orthodoxes connaissaient mieux la vraie doctrine de saint Thomas, ils n'auraient pas d'opposition. Mais s'ils lisent saint Thomas à travers Suarez. Parce que de fait, le saint Thomas vulgarisé, c'est saint Thomas à travers Suarez. Alors je comprends que les orthodoxes se mettent en boule quand ils sont en face de cette théorie suarésienne. Moi aussi, je suis en boule. Parce que c'est de fait supprimer le point de vue de la gratuité absolue et le point de vue de la contemplation. Vous n'avez plus que la grâce chrétienne qui fait des hommes parfaits. Et alors l'humanisme intégral, un humanisme chrétien. Un humaniste qui fait avant tout cela. Il faut avant tout que l'homme vive parfaitement. Mais non, il faut avant tout que l'homme vive en enfant de Dieu. Et c'est en vivant en enfant de Dieu qu'il vivra parfaitement. Mais ce n'est pas avant tout retrouver la nature dans son point de vue plénier. Quand on se place de ce point de vue-là, on perd son temps et on n'aboutira à rien. Parce qu'il faut d'abord regarder que la grâce, premièrement, nous fait vivre en enfant de Dieu. Que la charité nous fait vivre, en premier lieu, de la participation d'Esprit Saint. Que la foi nous fait vivre du mystère de la lumière d'Esprit, de la lumière du Verbe. Vous réfléchirez là-dessus.